Et salam alaikum les amis et bienvenue sur ce nouvel épisode de Burger Ring. Burger Ring, le podcast le plus halal et le plus kasher du game. Les amis, aujourd'hui nous allons parler de ce qui occupe actuellement le monde qui est au bord de l'explosion. Le conflit entre nos amis disciples de Mohamed et nos amis disciples de Hachem et de la Torah et certaines fois du Talmud. Oh, le Talmud, l'objet de la discorde, le livre de la discorde. Si vous voulez, vous êtes coincé entre deux propositions. Proposition A, les arbres et les pierres dénonceront les chrétiens et les juifs qui se cachent derrière eux. Ça, c'est un extrait du Coran. Et proposition numéro 2, le Christ sera mis à ébullition dans une marmite de merde, si vous voulez. Bon. Donc ça, c'est les deux camps avec lesquels il va falloir composer et avec lesquels vous allez avoir l'injonction de vous aligner, puisqu'il y a une injonction très très forte de s'aligner avec l'un des deux camps. Alors c'est intéressant parce que le troisième camp n'est jamais proposé, en tout cas par les médias officiels. Il y a vraiment deux lignes à laquelle vous devez jurer allégeance. Il n'y a jamais la troisième, la voie du Christ. Mais ça, j'en parlerai un petit peu plus tard dans le podcast. Pour l'instant, on va explorer les deux voies qui vous sont proposées et leur promoteur, puisque ces deux voies sont fortement promues par des gens extrêmement différents. Et on va un peu les décrire ensemble pour que je vous explicite un petit peu plus ce dont j'ai parlé en story récemment. Parce que sur Internet, il faut réexpliquer encore. Il ne faut absolument oublier aucun détail, parce que le moindre détail que vous avez oublié, paf, on va s'insinuer dedans pour vous dire « Mais t'as complètement oublié de faire ci, de faire ça, voilà ». On est entouré d'hystériques et il faut absolument être extrêmement, extrêmement, extrêmement rigoureux pour se faire péter les couilles le moins possible, ce qui est impossible. Hein. Que ce soit à la suite de mes stories, que ce soit à la suite de ce podcast, j'aurai mon lot de juifs et mon lot de musulmans qui viendront me casser les couilles en DM. C'est comme ça. C'est ce qu'induit cette guerre entre musulmans et juifs. C'est une éternelle rancœur, une éternelle volonté de triompher et une éternelle demande au reste du monde de s'aligner. Bon. Donc, on est un peu dans un contexte qui ressemble à celui de la guerre froide, où il fallait absolument se mettre soit du côté des Américains, soit du côté des Soviétiques. Donc, le capitalisme ou, grosso modo, le plan Marshall au rabais, l'américanisation. Voilà, un des grands terrains de jeu, les deux grands terrains de jeu de la guerre froide ont été l'Amérique du Sud, d'une part, qui tantôt était alignée avec les Américains, tantôt était alignée avec les Soviétiques, et puis d'autre part, l'Afrique, évidemment, qui, pendant la guerre froide, a été extrêmement disputée. Et puis ensuite, vous avez eu ces pays qui, par intelligence, par force aussi de conviction, sont restés en dehors de ce conflit en étant les pays non alignés, en expliquant qu'ils ne voulaient ni être soviétiques, ni être américanisés, donc ni communisme, ni libéralisme américain. Et ce sont des pays qui ont, du coup, souvent évité des guerres internes, puisque les pays qui se sont alignés ont dû, souvent, ils étaient utilisés par les grandes puissances qui étaient l'URSS et les États-Unis, pour faire des guerres de proxy. Qu'est-ce que c'est qu'une guerre de proxy ? C'est une guerre qu'on fait avec des peuples qui ne sont a priori pas concernés ni par l'URSS ni par l'Amérique, mais qui doivent, puisqu'ils ont choisi un pôle d'adhésion, s'affronter. Donc vous avez eu le proxy des communistes pour faire la guerre contre les Américains, qui était le Vietnam, qui a été d'ailleurs largement, y compris, soutenu par la Chine. D'ailleurs, on estime que sur les 2,5 millions de morts qu'il y a eu côté communiste pendant la guerre du Vietnam, il y a au moins 1 million de soldats chinois. C'est quelque chose qui n'est jamais évoqué, mais la Chine a pratiquement envoyé 1 million de soldats chinois au Vietnam, et ça a été la même chose 20 ans auparavant, ou 15 ans auparavant plutôt, en Corée. En Corée, vous avez eu une déferlante de Coréens du Nord qui était en fait presque 1 million de soldats chinois. C'est la grande puissance chinoise qui peut se permettre de faire la stratégie qu'on appelle dite du déferlement. Et donc, vous avez des pays qui ont payé très cher leur alignement. Vous savez que l'Afghanistan a oscillé tantôt dans un alignement pro-soviétique, puisque les communistes, dans les années 70, ont pris le pouvoir en Afghanistan. Puis a oscillé tantôt avec un alignement avec les Américains, justement pour lutter contre le communisme via les talibans pachtounes. Et en fait, vous voyez, les pays peuvent se faire la guerre via d'autres pays. Et certaines fois, ils organisent des guerres entre proxys. C'est-à-dire que, par exemple, les États-Unis et l'URSS ne s'engagent pas militairement. Enfin, ils envoient des conseillers, mais ils ne s'engagent pas militairement en Afrique. Et ils arrivent à se faire affronter telle milice du nord du Congo qui est plutôt d'inspiration communiste et telle milice du sud du Congo qui est plutôt d'inspiration nationaliste et otanienne, plutôt atlantique. Voilà. Donc vous avez comme ça, par exemple, pour vous donner un exemple, vous avez en Angola l'UNITA, le syndicat de l'UNITA qui s'est affronté avec, je crois, le MPLA de souvenir, Movimento per l'Angola. Je crois que c'est ça. Et UNITA, je ne sais plus, Union Nacionalista, je ne sais plus quoi, bon bref. Et donc cette guerre en Angola, eh ben, elle a été tantôt financée par les Américains, tantôt financée, les syndicats de part et d'autre étaient financés tantôt par les Américains, tantôt par les Russes. Vous avez eu une intervention d'Afrique du Sud en Angola, c'est peu connu, mais vous avez le pays, l'Afrique du Sud, qui était pro-américain, qui a débarqué en Angola pour aller faire une guerre en Angola, pour le compte en fait des États-Unis. Voilà. Donc si vous voulez, il y a des pays comme ça, le Zaïre, hein, le Zaïre est aligné sur les Américains. Bon, ben le Zaïre est devenu un pays, est devenu une dictature chapeautée par les États-Unis. Et vous avez de l'autre côté, par exemple, le Congo-Brazzaville, l'autre Congo qui, lui, était communiste. Donc, vous voyez, il y a une espèce de morcellement comme ça. Il faut absolument choisir un pôle. Vous ne pouvez pas avoir un nationalisme suffisamment fort pour envoyer tout le monde se faire enculer et dire « Attendez, ce conflit ne me concerne pas. J'ai des problèmes à traiter chez moi qui sont bien plus urgents que la suprématie de l'URSS ou des États-Unis sur le monde. Laissez-moi tranquille. » Bon. Et c'est assez rigolo et ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Les pays qui ont le plus été forcés de s'aligner, c'était soit des pays industrialisés qui avaient complètement été vassalisés après la Seconde Guerre mondiale par les Américains ou les Russes, donc soit le bloc soviétique, le pacte de Varsovie, soit de l'autre côté l'organisation de l'Atlantique Nord, OTAN, c'est ça. Organisation transatlantique Nord. Soit c'était des pays industrialisés qui étaient complètement vassalisés par l'Amérique ou l'URSS, soit c'était des pays beaucoup trop pauvres pour pouvoir avoir un chef qui les épargne. Et donc c'était des pays qui étaient fracturés entre milices concurrentes. Et ça a donné, c'était des pays qui étaient pauvres. Voilà. Et aujourd'hui, nous, les Français, nous sommes entre les deux. C'est-à-dire que nous sommes un pays industrialisé désindustrialisé désormais, complètement vassalisé par les États-Unis et de l'autre, nous sommes en train de devenir un pays de déclassement. Maximus vient de péter, c'est l'enfer. Et en plus, l'odeur est tenace, c'est l'enfer. Oh là là, c'est l'enfer. Je lui ai donné le jus, je lui ai donné l'huile des sardines, il est en train de me faire des pets. Je suis en train de perdre le fil de mon discours de tellement que ça pue. C'est infernal. Excusez-moi. Oh putain. Attendez, je vais mettre le ventilateur parce que là c'est l'enfer là. Excusez-moi. Voilà, excusez-moi, je vous prie de m'excuser. Vous allez peut-être avoir un bruit de ventilateur, mais là c'est l'enfer. Et comme j'ai pas envie de dégager le chien du bureau parce qu'il est posé, il fait la sieste, hein, je vais devoir me taper ces odeurs de paix là pendant tout le podcast. Donc je me suis mis le ventilo. Je suis désolé les amis, hein, pardon. Hein, voilà. Donc je vous disais, la France elle est entre les deux. Elle est entre les deux. C'est-à-dire que c'est un pays désindustrialisé, vassalisé par les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, et en même temps c'est un pays en pure fragmentation avec de plus en plus des factions internes qui ont de plus en plus de pouvoir, qui pèsent de plus en plus sa politique et qui vont fractionner l'unité du pays. Voilà, parce que le vivre ensemble, c'est bien gentil, mais quand tu as un quart de ta population qui est musulmane et que les médias sont largement peuplés de gens qui sont pro-israéliens ou tout simplement de juifs, vous avez des pouvoirs qui s'affrontent. Vous avez le pouvoir du nombre dans le cas des musulmans. Même si ça reste une minorité, c'est une minorité qui pèse de plus en plus et donc il y a de plus en plus droit de cité, et de l'autre, vous avez les intellectuels et les élites juives dont la France, je crois, est un des pays... Je crois qu'avec les États-Unis, c'est la plus grande diaspora juive, la France. Donc évidemment, ça compte aussi comme données quand on veut analyser pourquoi est-ce que notre pays est embarqué de force dans des problématiques externes alors qu'il n'a pas réglé les problématiques internes qui le touchent à lui. Voilà. Donc si vous voulez, on est un petit peu dans ce contexte très similaire à la guerre froide où vous avez le monde qui doit choisir entre Israël ou l'Iran. Voilà. Ou alors entre Israël et Gaza avant l'attaque. Donc, est-ce que tu es pro-palestinien? Est-ce que tu es pro-israélien? Est-ce que tu es anti-palestinien? Est-ce que tu es anti-israélien? Et vous avez comme ça des intérêts pour certains qui sont très très importants parce que c'est des intérêts religieux, parce que ce sont aussi, ça répond à certains complexes, à certaines volontés de vengeance, voilà. Donc si vous voulez, vous avez une situation qui est extrêmement tendue, avec en plus un petit problème, si vous voulez, qui est insoluble, hein, c'est un problème qui est insoluble, c'est que les Juifs sont tout simplement trop ingénieux et trop intelligents pour être battus par des Bédouins, et de l'autre côté, les Bédouins sont beaucoup trop nombreux et beaucoup trop jusqu'au boutiste pour que les Juifs finissent par être tranquilles. Donc, si vous voulez, c'est une guerre qui durera éternellement. Et quand Israël en aura fini avec l'Iran, il y aura sans doute un autre ennemi qui sortira comme ça de derrière les fagots, parce que c'est le destin, à mon avis, de ces deux religions que sont l'islam, qui soit chiite ou sunnite, ou le judaïsme, de s'affronter éternellement, puisque vous le savez, à mes yeux, hein, moi je suis catholique, à mes yeux, le véritable chemin, c'est Jésus, et il n'y aura pas de paix pour ceux qui ne sont pas alignés sur ce chemin-là. Voilà. Donc, on va aborder toutes les questions qui ont à voir, tout ce qu'induit, si vous voulez, cette forte polarisation. Et on abordera ensuite la raison pour laquelle elle n'a pas lieu d'être, excusez-moi, au sein du peuple français. Voilà, au sein du peuple français. Quand je dis le peuple français, j'exclus les racailles mahométanes de banlieue, et j'exclus le gotha intellectuel juif de la télé, qui évidemment n'a pas les mêmes intérêts que la classe moyenne française, qui est composée à 99,99999% de gentils koufars et de gentils goyim, qui font tourner le pays accessoirement. Donc ça serait bien que ceux-là, on règle leurs problèmes, qui ne se trouvent pas ni dans le Golan, ni à Gaza, ni à Téhéran, ni à Tel Aviv, mais plutôt dans les quartiers nord de Marseille, à Vénissieux, à Lyon, au Mirail, à Toulouse, dans le 9-3 à Paris, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Alors, moi déjà, j'en ai vraiment plein le cul que notre président complètement fou, avec son œil fou là, et ses allures de cocaïne finie, dès qu'il y a un conflit qui se présente, veuille immédiatement envoyer notre armée, quoi. Voilà, ça pète entre l'Ukraine et la Russie. Vite, 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 envoyez notre armée, là. Vite, vite, oh putain, faut sacrifier des blancs à Moloch, là. Oh putain, vite, vite, envoyez, on n'a pas massacré assez d'Européens, là, pendant la Première Guerre mondiale. On s'est pas assez tiré une balle dans le pied dans la Seconde Guerre mondiale. Vite, vite, une autre guerre, là, rapidement, rapidement, s'il vous plaît. Oh putain, je rêve tellement de sacrifier plus de Français à Moloch. Oh mon Dieu, oh vite. Vite, vite, sur l'autel du satanisme, vite, plus de sang français, oh, plus de viande française, là, au hachoir, s'il vous plaît. Oh, c'est la loge qui me l'a demandé, il faut absolument qu'on y arrive. On a un objectif, c'est de déclencher cette putain de Troisième Guerre mondiale. Ouh là là, je crois que je vais me palucher, rien que d'en parler. Oh, oh, oh. Voilà, vous avez ça. Donc, en fait, dès que ça pète entre l'Ukraine et la Russie, vite, il faut envoyer l'armée française, vite. Il faut faire crever nos militaires, qui sont peut-être le dernier truc avec les artisans qui soient un peu sain et un peu patriote en France. Ça pète entre l'Iran et Israël. Vite, 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 vite. Faut envoyer l'armée française. La vie de là. Faut aller crever pour les intérêts d'Israël très, très vite. Voilà. Alors, moi, la question que j'ai à poser, parce que, si vous voulez, récemment, Julien Rojdi a posté une vidéo où il parlait de ce qu'est un droit tardé. Ben moi, je vais vous donner ma définition, qui n'est pas exactement la même que la sienne. Pour moi, un droit tardé, si vous voulez, c'est quelqu'un qui épouse systématiquement un pôle d'adhésion qui n'est pas à son propre service. C'est-à-dire, il pense être dans un logiciel de droite, il pense s'inscrire dans une action de droite, il pense s'inscrire dans la vraie droite en allant supporter soit Israël, soit la Palestine, tout en oubliant que lui-même, normalement, a une existence, devrait avoir un poids existentiel qui fasse que la première de ses adhésions lui revienne à lui-même, en fait. Et à son peuple, et à son intérêt. Et je suis désolé, si vous êtes français, vous avez des problèmes bien plus immédiats, bien plus grands que Gaza et Israël, si vous voulez. Vous comprenez ? Moi, je regrette, hein, ça c'est, donc, ça, je m'adresse au droit d'arder, qu'il soit pro-palestinien ou qu'il soit pro-israélien, je regrette dans votre quotidien de tous les jours. Ce n'est pas les bombes qui tombent sur Gaza ou les roquettes qui sont tirées sur Israël qui vous cassent les couilles. Dans votre quotidien à vous, qu'est-ce qui vous casse les couilles ? Dans votre quotidien à vous, ce qui vous casse les couilles, c'est, on va commencer par les Juifs, Jacques Attali qui vous dit que votre pays doit être un hôtel, Bernard-Henri Lévy qui déclenche des guerres dans lesquelles la France est emmenée et qui ensuite fait qu'elle récolte tous les clans d'eau de merde que se chargeaient d'anéantir les soi-disant dictateurs qui avaient en Libye, bon, même si oui, c'est des dictateurs, mais parce qu'en fait, dans ces pays-là, il faut des dictateurs, en Libye ou en Irak. Donc, c'est ça d'un côté, hein, parce qu'il faut comprendre que c'est ça. Le talmudisme politique, c'est ça. Et de l'autre côté, vous avez les Arabes, donc, qui représentent une très forte proportion des incivilités que vous rencontrez au quotidien. Alors, on n'a pas le droit de le dire parce qu'on n'a pas le chiffre, mais du coup, on n'a pas, à la fois, on n'a pas le droit de l'affirmer, mais on ne peut pas l'infirmer non plus. Donc, de mon propre ressenti, sans que je puisse donner des chiffres, puisque les statistiques ethniques sont interdites en France, de mon impression, d'accord, voilà, qui n'est pas la vérité absolue, il y a quand même une sacrée paquet de majorité de musulmans dans les prisons de France, voilà. Donc il me semble que c'est peut-être corroborable de manière scientifique par le fait qu'on ne peut pas faire de statistiques ethniques, mais on peut faire des statistiques nationales. On peut dire quelles sont les nationalités, le top 3 des nationalités présentes en prison. Voilà. Bon, ben, dans le top 3 des nationalités présentes en prison, c'est algérien, marocain en tout premier et je crois tunisien en deuxième, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est assez exceptionnel ce petit trio de tête. Donc ça, c'est pour les nationalités. Voilà. Pour les Français d'ascendance, nous n'avons pas les chiffres parce que vous imaginez bien que si on avait les chiffres, on fermerait un sacré paquet de gueules. Mais évidemment, les Maghrébins qui n'arrêtent pas de dire qu'ils sont emmerdés par l'État français sont extrêmement protégés par la République. Ils sont extrêmement protégés par la République. Si les Maghrébins n'étaient pas protégés par la République, on aurait les chiffres. On aurait les chiffres des origines, des origines en prison. Voilà. L'État français ne le fait pas parce qu'il protège. Il protège ses Maghrébins. Voilà, ça il faut bien le comprendre parce que j'en ai un peu marre d'entendre « Oui, la France ne laisse pas respirer les Arabes ». La République se sert précisément des Maghrébins musulmans et des Juifs pour détruire, et des Juifs talmudiques, pour détruire le corps national français, avec la doctrine du Talmud, d'un côté, qui est très antichrétienne, et la doctrine de l'islam, qui elle aussi l'est, mais de façon beaucoup plus détournée en réalité. Hein, voilà. Donc Jésus n'est pas un imposteur comme dans le judaïsme, il a simplement été remplacé par quelqu'un, il n'est pas le fils de Dieu, il n'est pas mort sur la croix, bon, en fait, c'est pas Jésus, quoi. Voilà. Et quand même, il est spécifié dans le Coran qu'à la fin des temps, les pierres et les arbres vont dénoncer les chrétiens qui se cacheront derrière eux pour qu'on puisse plus facilement les tuer. Voilà. Donc, si vous voulez, je veux bien qu'on ait de la sympathie pour les uns et les autres. Hein. Vous avez des Juifs qui sont extrêmement sympas, vous avez des musulmans qui sont extrêmement sympas, mais in fine, souvent, leur adhésion va à leur intérêt, ce qui est normal. C'est que les musulmans ont envie de voir le monde musulman gagner, les juifs ont envie de voir le monde juif exister et gagner. Et les chrétiens, nous, en revanche, c'est silence radio. On n'est absolument pas conviés à avoir nos propres desseins. Voilà. Alors, quelles sont les grandes tendances qui empêchent les Européens normalement d'ascendance chrétienne et normalement de pratique chrétienne, et donc normalement chrétien, même s'ils sont devenus post-chrétiens. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ne pratiquent plus. D'ailleurs, c'est pour ça que comme ils ne pratiquent plus, ils n'ont plus de pôle d'adhésion et donc ils en sont réduits tristement à devoir choisir entre Israël et l'islam. Parce qu'il n'y en a plus un seul à l'église et en fait ils passent leur temps sur Twitter à commenter je ne sais pas quoi plutôt que de préserver leur civilisation et d'aller justement se rendre compte que le seul communautarisme des Français il se fait à l'église dimanche. Mais bon, bref, écoutez, ce ne sera pas faute de l'avoir crié, sans doute dans le désert maintenant, si ce pays veut absolument se départir de la catholicité et trouver une solution par je ne sais pas moi, le néopaganisme et le racialisme, et ben bon courage, voilà, bon courage, bon. Bref, et donc ce que je voulais vous dire, c'est que ces gens-là, c'est normal. Que les Juifs défendent l'existence d'Israël, c'est normal en fait, on ne peut pas leur en vouloir. C'est leur berceau civilisationnel, n'en déplaise aux gens, c'est leur terre originelle. Bon, même si aujourd'hui, quand tu t'appelles Kowalski et que en fait t'es un Polonais ou un Russe qui a fui les pogroms soviétiques, bon, si tu veux, ta filiation avec Israël, elle est certes religieuse, génétiquement, elle a quand même pas grand chose à voir, mais c'est pareil pour les Palestiniens de l'autre côté. Si vous voulez, la péninsule arabe, ce n'est pas les rives du Jourdain. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est pareil. Ce sont des gens qui ont été exportés. Donc, l'argument de oui, les Juifs sont tous des Polonais. Bon, déjà, c'est faux. Il y en a parmi eux qui sont des Juifs marocains, qui sont des Juifs qui sont partis se répandre en Méditerranée après la destruction du temple par les Romains. Et il y en a d'autres, effectivement, ce sont des Juifs ashkénazes qui viennent d'Allemagne, donc des Juifs Yuke, je crois, et Yeke, ou Yuke, je ne sais plus, qui est un peu le Pokémon rare du Juif, hein, c'est les Juifs les plus rares, c'est les Juifs d'ascendance allemande. Et vous avez ensuite les Juifs polonais, les Juifs russes, qui sont venus trouver refuge en Israël, mais refuge du communisme surtout, et non pas, je pense, du nazisme. Enfin, en tout cas, dans la vague qui concerne ceux qui sont venus dans les années 60. Bon, bref, on s'égare. Donc, si vous voulez, si on commence à partir sur qui est légitime du point de vue génétique, les Arabes viennent du sud de l'Arabie Saoudite et du Yémen. Donc, ils n'ont rien à foutre hein, en Palestine. Et les Juifs actuellement qui vivent en Israël, la moitié d'entre eux sont des énormes Polonais qui n'ont plus grand-chose de... qui n'ont plus une grande chose à voir génétiquement avec les Juifs originels. Bon, bref, tout ça pour vous dire, si vous voulez, que les questions de légitimité, elles sont inextricables. C'est-à-dire que les musulmans vont vous dire « Oui, mais en fait, nous, on est les Juifs originels qui se sont convertis, évidemment, volontairement à l'islam. » Et de l'autre, vous avez des Juifs qui vous expliquent, et je pense qu'on peut l'entendre, qu'après le massacre qu'il y a eu pendant la Seconde Guerre mondiale, il a fallu se trouver un pays où ils puissent être en sécurité. Et ça, effectivement, n'importe quel patriote au monde ne pourra pas nier qu'il est primordial pour un peuple d'avoir un pays. Quand tu n'as pas de pays, tu te fais exploser. Les peuples qui n'ont pas de pays à eux se font éclater. Les Ouïghours n'ont pas de pays à eux, hein. Ils n'ont pas eu le temps de fabriquer une Palestine en Chine pour expliquer aux Chinois qu'ils étaient là avant eux. Donc, si vous voulez, bon, ben, ça a fini sur une stérilisation forcée et un gâteau surprise chinois avec un petit message dedans. Tu le déroules, il y a écrit nique ta mère, tu vois. Voilà. Donc, ça, d'une part. D'autre part, par exemple, les Ouïghours et les Rohingyas. Donc, les Rohingyas, c'est un mélange de gitans, de Bangladais et de Pakistanais. Donc, autant vous dire que là, on est sur le summum de ce que peut offrir la génétique et les échanges culturels. Bon, eux, c'est pareil. Hein. Eux, ils se sont fait terminer par tout le monde parce que personne n'a envie d'avoir non seulement un gitan qui capture des hérissons, mais qui, en plus, les égorge selon le rite halal, si vous voulez. Hein. C'est ça, un Rohingya. Et puis ensuite, vous avez, par exemple, les chrétiens les chrétiens dans les pays les chrétiens par exemple en Syrie qui sont les chrétiens pratiquement originels, pareil pour les Arméniens de l'Artsakh, ce sont des gens qui ont soit pas de pays dans le cas des chrétiens de la Syrie, soit des pays qui sont trop faibles pour pouvoir résister à la pression islamique. Donc si vous voulez qu'un peuple veuille une terre pour y être en sécurité, je le comprends. C'est pour ça que, si vous voulez, le mouvement qui pousse les Juifs à vouloir avoir un pays qui les protège et dans lequel ils sont maîtres, moi, je le comprends. Maintenant, ce que j'aimerais que eux comprennent, c'est que je veux la même chose pour mon peuple. Je veux un pays où les putains de Français décident en tant que Français. Voyez, et c'est pas les États-Unis qui décident pour eux, ou Netanyahou qui décide pour eux, ou tel imam qui décide pour eux. Voilà. C'est-à-dire que ça serait bien qu'il y ait de la réciprocité. Et là, je m'adresse à la fois aux musulmans et aux juifs. Parce que vous arrêtez pas, les musulmans nous expliquent, regardez ce que font les juifs, ils sont en train de coloniser la Palestine. Mais excusez-moi, ils sont remplis de quoi les quartiers là en France dans lesquels la République vous a laissé préempter des pans entiers de territoire ? Ce sont pas des territoires perdus, c'était pas des territoires français à la base, ils sont devenus quoi aujourd'hui ? Vous allez m'expliquer que Grigny, c'est un territoire français ? Vous allez m'expliquer que Bagatelle, c'est toujours un territoire français ? Vous allez m'expliquer que la ville de Muret, dans laquelle il y a trois mosquées, c'est toujours un territoire français ? Ben, écoutez, on est tous le dhimmi de quelqu'un. On est tous le colon israélien de quelqu'un. Voilà. Ce que vous font les juifs en Terre Sainte, vous nous le faites en Occident, vous nous l'avez fait en Arménie, vous nous le faites en Belgique. Bon, mais chacun son tour. Et puis un jour, tu tombes sur un Chinois. Voilà. Tu tombes sur un Chinois, ben le Chinois, il est taquin. Hein. Chinois, c'est un communiste, il n'y a pas le Christ dans sa vie. Hein. Donc ça prend des mosquées, ça fait des toilettes publiques à la fin avec. Voilà. Et ça, quelque part, quand même, ça vous rappelle que la fête n'est pas éternelle. Parce que vous avez tendance, quand vous êtes en Europe, à penser que les règles du jeu sont beaucoup trop faciles. Et puis bon, de temps en temps, il y a Xi Jinping qui arrive avec sa tête de panda, de cyborg panda. Et en fait, il attrape une partie de votre communauté, il la met au pas. Et ça, c'est des choses dont vous n'êtes pas habitué. Voilà. Donc, quelque part, si vous voulez, ce que les Juifs vous font, vous nous le faites. D'accord ? Parce que qu'est-ce que vous leur reprochez ? Vous leur reprochez d'être juif, de venir dans vos villes, de faire des kibboutz et de vivre à la juive chez vous. Qu'est-ce que vous faites en France ? Vous vous êtes converti au christianisme ? Vous avez abandonné vos traditions et votre langue ? Ben non. Vous vivez à la musulmane dans nos régions, dans nos quartiers. Donc vous faites des kibboutz de musulmans sur la terre des Gaulois. Voilà. Donc si vous voulez, Dieu ne peut pas... Il peut pas vous donner d'un côté du capricieux et le droit de nous casser les couilles parce qu'on a décapité Louis XVI, et de l'autre côté, vous sucez la bite en Palestine. Ce que vous obtenez d'un côté, c'est la question de l'équilibre, en fait. Hein. Dieu n'est qu'équilibre. Donc, en fait, ce qu'il vous autorise à faire, comme des gremlins en Europe, ben, il est obligé de vous mettre une hagara derrière, en Chine ou en Palestine. Ça, il faut que vous le compreniez. D'accord ? Parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul chemin, c'est celui du Christ. Donc, il ne peut pas donner aux musulmans le triomphe absolu. Vous êtes bien amusés chez les Arméniens... d'ailleurs, avec là, vous étiez bien copains avec Israël quand il a s'agit de bombarder l'Artsakh. Là, il n'y avait pas de problème. Bon, eh ben, de l'autre côté, il faut que voilà, de l'autre côté, il faut que vous acceptiez que de temps en temps, il y ait des gens qui puissent s'amuser avec vous. C'est ce qu'ont fait les Birmans avec les Rohingyas, et c'est ce qu'ont fait les Chinois avec les Ouïghours. Eh oui, ben, c'est comme ça. Je préférerais un monde d'équilibre où tout le monde reste chez lui et bien tranquille, mais puisque tout le monde a décidé de d'emmerder tout le monde, eh ben chacun doit à la fois remporter des petites victoires à droite à gauche, et puis de l'autre côté eh ben ramasser un petit peu, parce qu'il faut pas déconner, quoi. Voilà. Je veux dire, vous narguez les Grecs parce que vous avez pris Sainte-Sophie. La moindre des choses c'est que 13 millions de Juifs vous mettent à l'amende alors que vous êtes 1,3 milliard de musulmans. Voilà, ça c'est quand même la base, parce que Dieu il vous aime bien, il attend que vous veniez vers lui, mais Dieu il est pas musulman, hein. Dieu c'est Jésus-Christ, en fait. Hein. Donc il peut pas vous donner ce qu'il a donné aux Européens, c'est-à-dire masterclass sur masterclass jusqu'à ce qu'il décide de rentrer dans la modernité. Voilà. Donc voilà, bon bref, je suis parti en couille, mais c'est pour vous dire qu'en fait, vous n'avez pas à choisir un des deux camps. Je vous expliquais pourquoi. Les juifs qui vivent en France vous ont pendant très longtemps empêché de faire le ménage avec la racaille en France, parce qu'ils avaient peur que ça finisse comme ça s'est fini pendant la Seconde Guerre mondiale avec les Allemands. C'est-à-dire que les Juifs ont été complètement traumatisés par les persécutions dont ils ont fait l'objet pendant la Seconde Guerre mondiale et par l'extermination dont ils ont fait l'objet. Donc, pendant très très longtemps après la Seconde Guerre mondiale, ils ont empêché toute forme de réappropriation de leur puissance après la guerre par les Européens, parce qu'ils avaient peur que cette puissance se retourne une nouvelle fois contre eux. Ils se sont dit, si l'Allemagne redevient puissante, si la France redevient puissante, si les Blancs redeviennent les Blancs qu'ils étaient au Moyen-Âge, évidemment que les Juifs vont charger, parce que c'est ce qui s'est passé tout au long de l'histoire médiévale. C'est-à-dire que pendant très très longtemps, les Juifs en Europe ont été persécutés partout où ils allaient, parce que tout simplement, les seigneurs locaux étaient en capacité de le faire. Ils étaient en capacité de le faire, donc ils ne se privaient pas de le faire. Alors, il y a eu des périodes de cohabitation, mais il y a eu aussi beaucoup de périodes de persécution des Juifs. Et donc, il n'est pas dans l'intérêt historique des Juifs en tant que groupe que les Européens soient très catholiques, très puissants et qu'ils aient une hégémonie décisionnelle dans leur propre pays. Ça, c'est une réalité. Ce qui n'empêche pas l'existence de Juifs profondément patriotes et de musulmans profondément patriotes. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que s'ils vont au bout de ce raisonnement, en fait, le patriotisme français s'accompagne irrémédiablement d'une conversion au christianisme, que ce soit au protestantisme, à l'orthodoxie ou au catholicisme, qui est sa religion historique. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, je veux bien que vous soyez patriote et que vous aimiez la France. Il y a plein de juifs dans ce cas-là, il y a plein de musulmans dans ce cas-là, et je le dis pas pour relativiser, c'est vraiment vrai, hein. Vous avez vraiment des musulmans et des juifs qui se sentent très patriotes, qui sont attachés à la France, sincèrement, mais en fait, ils n'ont fait que la moitié du chemin intellectuel. S'ils vont au bout de cette démarche de patriotisme, pour être 100% patriote français, en fait, tu ne peux être que catholique, orthodoxe ou protestant. Parce que ce sont des religions qui ne rentrent pas en contradiction avec ce qu'est la France. Alors pourquoi je mets l'orthodoxie dans le paquet? Parce qu'en fait, la France, avant l'instauration du catholicisme, a connu des formes de gnose, elle a connu du protestantisme à partir du schisme du 15e ou du 16e siècle, début du 16e siècle. Et donc, c'est, qu'on le veuille ou non, le protestantisme est une religion historique française, puisqu'elle a, elle a pratiquement 500 ans d'existence en France. Et l'orthodoxie, ben, faisait partie des religions qu'à un moment, les premiers chrétiens ont pu suivre, puisque c'était l'époque de la gnose. Et donc, vous aviez le catharisme, vous avez plein de choses, mais vous aviez aussi l'orthodoxie. Et au-delà de ça, c'est une religion que je respecte. L'orthodoxie n'empêche pas d'aimer la France. Nous avons toujours eu beaucoup de liens avec des pays orthodoxes. Nous avons même des fondements culturels qui viennent de pays orthodoxes, comme la Grèce, par exemple. Nous avons de forts liens historiques que nous avons reniés par la suite avec la mère Russie et la grande Serbie, que nous avons trahis lors de la guerre de Yougoslavie. Voilà. Donc nous avons toujours eu beaucoup de liens. La Roumanie, nous avons toujours eu beaucoup de liens et des liens cordiaux avec les pays orthodoxes. Voilà. Donc, si vous voulez, nous avons même été alliés avec eux à certains moments pendant les croisades. Et il y a une partie de l'Europe qui a beaucoup été inspirée par les Byzantins qui étaient en fait déjà des orthodoxes. C'est pour ça que, si vous voulez, je l'inclus, même si elle est beaucoup moins prépondérante que le catholicisme et un peu moins prépondérante que le protestantisme. Mais bon, je l'inclus dedans. Donc, si vous allez au bout de votre patriotisme juif ou musulman, de français, pardon, juif ou musulman, vous êtes obligé de tomber d'accord avec moi, si vous êtes honnête intellectuellement, au bout du bout du bout de la notion de francité, il y a la corrélation avec le christianisme. La France est profondément est un pays profondément marqué par le catholicisme, constitué par le catholicisme. C'est le baptême de Clovis qui fonde la France. C'est la chanson de Roland via les premières enluminures des moines copistes dans les chapelles et les monastères qui ont construit la mythification médiévale et l'esprit médiéval français, qui est le tronc, hein, le tronc de l'arbre français, c'est le médiéval. Et le médiéval n'est rien d'autre qu'une énorme explosion de catholicisme architectural dans les mœurs, dans le langage, dans les expressions, dans les visions, dans les actions, dans les guerres qui sont menées, dans la vie de tous les jours. Donc si vous allez au bout de votre volonté de patriotisme, au bout du bout, il y a le Christ. Il y a le Christ, que vous le vouliez ou non, il y a le Christ. Et c'est là où le bât blesse. C'est-à-dire que le musulman et le juif, quand ils se disent patriotes, ne le sont que par le prisme de la République. Car c'est uniquement la République qui, d'une part, a fait des juifs qui vivaient en France des citoyens français à part entière. Donc les juifs, d'ailleurs, je crois que beaucoup de prières juives démarrent par un remerciement à la République française en France. Il me semble qu'il y a quelque chose comme ça. Donc les juifs de France sont très attachés au système républicain, ce qui n'est pas mon cas en tant que catholicisme, en tant que catholique, puisque la République a détruit le catholicisme. Donc c'est là la limite de votre patriotisme, à vous les juifs français, c'est que vous êtes profondément pro-laïque, pro-république. Et d'autre part, vous les musulmans, même si vous nous dites que vous préféreriez une France chrétienne, une France catholique, vous savez pertinemment au fond de vous-même qu'une France qui redevient extrêmement catholique, ben, c'est l'avion pour l'Algérie, c'est l'avion pour la Tunisie, c'est l'avion pour le Maroc, c'est l'avion pour le Mali. Vous le savez au fond de vous. Si les Français redeviennent les chrétiens qu'ils étaient sous Saint-Louis, ça part sur une dixième croisade. Ça part sur la reprise de Constantinople pour redonner Sainte-Sophie à nos frères orthodoxes et la réunification des deux églises, je l'espère, à l'occasion de cette reprise de Constantinople. Donc, quelque part au fond de vous, vous savez que la France est profondément catholique. Vous savez que l'islam est profondément incompatible avec ce qu'est réellement la France. Parce que, en fait, c'est très simple. Je vous explique un truc, les musulmans, qu'on ne vous dit pas assez. En fait, vous avez choisi d'émigrer dans le pays qui est connu mondialement pour son vin, c'est-à-dire que les meilleurs vins du monde sont produits en France, et dans un pays qui est mondialement connu pour sa gastronomie. Or, ce sont deux interdits que vous avez et qui sont primordiaux dans votre religion. C'est non seulement l'interdit de l'alcool, donc le vin, et l'interdit de la nourriture profane qui ne soit pas cachère. Voilà. Donc, si vous voulez, ce sont deux énormes freins à votre possibilité d'être entièrement patriote français, puisqu'il y a une très très grande part de la culture française qui vous est interdite parce que elle passe par la célébration de Noël, elle passe par la Pentecôte, elle passe par le fait de s'endimancher, ben évidemment pour rendre hommage au Christ, par la nourriture, les us, les coutumes. Tout ceci rentre en contradiction profonde avec les véritables fondements de l'islam. Et ne me parlez pas d'islam de France. Si vous me parlez d'imam de France, d'islam de France, vous êtes l'imam Chalgoumi, vous n'êtes donc pas un musulman. Voilà. Si vous me parlez d'islam tout court, dans ce cas-là, vous êtes un salafi et donc vous allez aller vivre dans un pays musulman puisque vous allez obéir à votre créateur et effectuer la hijra. Voilà. Au lieu de ça, on a des musulmans feignants qui t'expliquent qu'ils sont français, ils aiment la France, mais qui ne veulent pas lâcher leur première fidélité qui, évidemment, va au Dieu des musulmans, c'est-à-dire Allah et à son prophète Mohamed. Voilà. Vous pourrez me raconter ce que vous voulez sur la France. Si vous mettez Allah et son prophète au-dessus, c'est que vous n'êtes pas complètement patriote. Parce que pour un catholique, le fait de mettre Dieu au-dessus de la France, ce n'est pas un problème, puisque la France est catholique, en fait, si vous voulez. Donc finalement, mettre Dieu au-dessus de la France, c'est mettre la France sacrée au-dessus de la France tout court. Voilà. Donc en fait, ça ne rentre pas en contradiction. Vous, les musulmans, que vous le vouliez ou non, si vous êtes vraiment musulmans, on va voir si je me trompe dans mon discours. Si vous êtes vraiment musulmans, vous devez placer le prophète Mohamed et Allah au-dessus des lois de la France. Bon. Si vous faites ça, vous prêtez obédience à des lois et à un prophète qui ne sont ni français, ni territorialement, ni culturellement rattachables à la France, puisque c'est quelque chose qui se passe à la Mecque, à des milliers de kilomètres. Donc, votre allégeance première ne concerne pas quelque chose qui soit au service culturellement de la France. Donc, même si vous avez l'impression d'être sincèrement patriote, il y aura toujours ce petit frein qui vous empêchera d'être complètement dévolu à la France. Parce que vous savez pertinemment que le jour où la France fait une croisade, comme c'était très souvent le cas quand elle était chrétienne, vous ne serez pas du côté de la France. On est d'accord là-dessus. Si jamais il y a des croisades et que le pape appelle à la coalition des chrétiens pour aller foutre sur la gueule les Turcs sunnites, on est bien d'accord que vous vous sentirez bizarre d'intégrer cette armée. D'accord ? Et qu'est-ce que vous ferez ? Vous retournez en Algérie qui n'est rien d'autre qu'un petit avant-poste de la Turquie, puisque Tebboune est simplement l'héritier du bey d'Alger. Hein. Le président Tebboune n'est pas autre chose que le bey d'Alger, donc, ou le dey d'Alger, je ne sais plus. Donc si vous voulez, faut comprendre que votre allégeance finale reviendra à l'islam, et c'est normal. Je ne peux pas vous en vouloir. Si vous êtes sincèrement croyant, votre allégeance finale va à votre prophète et à votre religion, mais c'est normal, c'est pas un reproche. Le reproche que je vous fais, en revanche, c'est qu'il y ait cette vérité qui cohabite avec le fait que vous ayez le cul posé en France, ce qui fait de vous des bombes à retardement. Parce qu'en fait, ouais, vous êtes super français. Déjà, vous êtes quand même dans l'attente que démographiquement, il y a des choses qui se passent pour venir en votre faveur. Et de l'autre, vous ne pouvez pas complètement souscrire au catholicisme parce que le catholicisme, c'est défini par son antagonisme à l'islam, puisque nous voulons récupérer le tombeau du Christ. Nous voulons remettre Constantinople à nos frères grecs pontifs, qui est leur territoire, qui leur revient de droit. Nous devrions remettre le Kosovo à nos frères serbes, qui est le creuset et le nid de leur nation. Et voilà, et tout ça, vous n'êtes pas d'accord avec ça. Par exemple, les Serbes sont les alliés des Français, les musulmans ne sont pas pro-serbes. Ils sont pro-bosniaques, ils sont pro-kosovars, ils sont pro-albanais. Bien que les Albanais, d'ailleurs, soient de plus en plus chrétiens. Bref, donc si vous voulez, vous êtes bien gentil à nous expliquer que vous aimez la France et tout ça, mais en fait, beaucoup de vos adhésions vont contre ces intérêts. Voilà. Elles vont contre ses intérêts. Donc, si vous voulez, le patriotisme juif, le patriotisme français juif et le patriotisme français musulman ont des limites. Et en cela, j'estime que du coup, ils sont invalides, même s'ils sont sincères, dans une situation de jusqu'au boutisme. Et on le voit aujourd'hui avec Gaza et on le voit aujourd'hui avec, avec Israël. Les musulmans ont les yeux tournés vers la Palestine, alors qu'ils vivent en France et que s'ils étaient authentiquement patriotes, leur intérêt et leur préoccupation devraient se tourner vers la France. Et les juifs, c'est pareil, il suffit de voir à la télé à quel point ils sont concernés et à quel point, mais ce qui est normal, hein, et c'est pareil pour les musulmans et pour les juifs, à quel point ils sont concernés par l'avenir de leur pays refuge, le pays qui sera éternellement le leur, c'est-à-dire Israël. Voilà, c'est-à-dire que si la France s'écroule, il reste Israël. Voilà. Donc en ça, si vous voulez, il y a un décalage avec le français ou l'occidental en général, à qui il ne reste que l'Occident. Et si l'Occident s'écroule, eh ben, il ne lui reste que l'Occident, quoi. Alors après, il peut partir en Asie, mais il ne sera pas au milieu des siens, et où il peut partir aux États-Unis, il ne sera pas au milieu des siens. Voilà, parce que moi, je suis un latin, je ne me sentirais pas à ma place avec des anglo-saxons protestants autour de moi, je n'ai pas envie de ça. Et je ne me sentirais pas à ma place en Russie. Il y a beaucoup de gens qui me demandent, mais si tu n'es pas content avec la France, pourquoi tu ne pars pas en Russie ? Ben, je n'ai pas envie de vivre en Russie. Voilà, je n'ai pas envie de vivre en Russie parce que ce n'est pas mon truc, les Slaves, ce n'est pas mon truc, le climat russe, c'est pas mon truc. Et voilà, je peux avoir de la sympathie pour les Slaves, j'ai pas envie de vivre avec eux. J'ai envie de vivre avec des Latins. Donc, soit à Toulouse, soit en Espagne, voilà, pour résumer. Donc voilà. Donc, si vous voulez, là où le bât blesse, la question finale qu'il faut poser à un musulman, à un juif, c'est est-ce que ton Dieu vient au-dessus de la France ? S'il est profondément musulman, s'il est profondément juif et s'il est sincère, il vous dira que oui. Et bien, à partir de ce moment-là, son patriotisme trouve une limite. Voilà. Et c'est la différence qu'il y a entre lui et le poilu. Parce que le poilu, il va aller mourir pour la France. Il n'y a rien qui se met au-dessus. Voilà. Donc, si vous voulez, ça n'empêche pas que des juifs et des musulmans soient morts à la Première Guerre mondiale pour la France. Voilà. Il faut quand même le signifier. Il y a quand même des musulmans et des juifs qui portent les couleurs, qui sont des patriotes convaincus. Mais voilà, la limite, elle est là. Or, quand tu es juif en Israël, il n'y a pas de limite. Sur ton drapeau, il y a une étoile de David. Sur le drapeau des Algériens, il y a un croissant de lune qui est une référence semi-païenne, semi-islamique. Sur le drapeau de l'Arabie Saoudite, il y a un verset du Coran, je crois, hein, si je ne m'abuse. Donc, si vous voulez, les seuls glands qui n'ont aucune référence religieuse sur leur drapeau, c'est les Français. Voilà, parce que c'est la République. Donc la République est un système génial. Elle permet à un juif de te dire qu'en fait, il est autant français que toi. Elle permet à un musulman de dire qu'il est autant français que toi, alors que dans l'effectif, son adhésion à la France ne peut pas aller au-delà de son Dieu. Donc c'est un mensonge. Voilà. Et d'ailleurs, il y a dans ces pays-là des régimes de sous-citoyenneté qui sont soit effectives, soit officieuse, soit officielle. Voilà, en tant que chrétien en Arabie Saoudite, en tant que chrétien au Pakistan, vous êtes moins que de la merde. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de porter une croix, vous n'avez pas le droit d'avoir une Bible. Le fait de transporter des Bibles en Algérie est réprimé par la loi. À côté de ça, on fait des mosquées à nos Algériens en France. Et la raison de ce déséquilibre, c'est que nous n'avons aucun poids culturel, religieux à faire valoir aux Arabes et aux Juifs. Pourquoi ? Parce que nous sommes une république et parce que nous sommes un peuple complètement déchristianisé. Ce qui rend très très difficile le discours que je tiens, qui est de ni être dans l'adhésion à la cause israélienne, ni dans l'adhésion de la cause iranienne ou palestinienne, parce que nous avons des urgences bien plus prégnantes en France. Je ne comprends pas, je le répète hein, pour ceux qui n'ont pas écouté mes stories, je le répète, dans votre quotidien, ce n'est pas un Iranien ou un Russe qui vous cambriole, ce n'est pas un Iranien ou un Russe qui vous viole, ce n'est pas un Iranien ou un Russe qui se fait péter dans les stades et qui tire dans la rédaction de Charlie Hebdo, ce n'est pas un Russe ou un Iranien qui envahissent les Champs-Élysées pour tout saccager, ce n'est pas un Russe ou un Iranien qui vont planter le petit Thomas à la sortie de la salle des fêtes de Crépol. Ce n'est pas un Iranien ou un Russe qui a gentiment et savamment et méthodiquement démembré la petite Lola dans un cortège d'abominations que les médias se sont bien gardés de nous raconter. Ce ne sont pas les Iraniens ou les Russes qui nous ont donné Adama Traoré. Ce ne sont pas les Iraniens ou les Russes qui nous ont donné Rokhaya Diallo. Ce ne sont pas les Iraniens ou les Russes qui nous ont donné Bernard-Henri Lévy. Ce ne sont pas les Iraniens ou les Russes qui nous ont donné Jacques Attali. Ce ne sont pas les Iraniens ou les Russes qui nous ont donné Jean-Luc Mélenchon, si vous voulez. Donc, je ne comprends pas pourquoi tout d'un coup, l'urgence absolue d'aller faire la guerre contre la Russie pour des raisons vitales, c'est des raisons vitales pour la France qui ont été évoquées, d'accord ? Donc visiblement, aller soutenir le cocaïnomane Zelensky, c'est vital. Par contre, faire le ménage dans le 93, c'est pas vital. Faire le ménage à Marseille, c'est pas vital. Vider les cellules terroristes qui végètent en France, c'est pas vital. Empêcher que toutes les 3 secondes, je crois, ou toutes les 3 minutes, non, toutes les 3 minutes, il y a un cambriolage en France, c'est pas vital. Empêcher que je sais pas combien de Françaises parents se fassent violer par des OQTF, c'est pas vital. Est-ce que ce sont les Iraniens et les Russes qui refusent de récupérer leurs OQTF ? Je crois pas. C'est pas le président de l'Iran ou le président de la Russie qui refuse de récupérer ses OQTF. Je suis désolé. Le président Tebboune, il est algérien et il est sunnite. Hein. C'est pas un chiite iranien. Hein. Voilà. Donc si vous voulez, moi, les discours d'urgence là pour sauver la civilisation, ça c'est un discours de droit tardé. Vite, 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 faisons à la guerre à l'Iran parce que ce sont des musulmans. D'accord, très bien. Et en fait, quid de je vais vous donner quand même parce qu'il faut que vous ayez une unité de mesure. Donc l'Iran, j'ai pas dit que les chiites c'est les amis de l'Occident, j'ai pas dit que le chiisme est mieux que le sunnisme, j'ai pas dit que je suis plutôt copain avec les chiites qu'avec les sunnites, j'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que je suis pour le régime des mollahs en Iran, je lui pisse dessus. Moi ce que je respecte c'est la royauté iranienne, c'est le Shah d'Iran et ses descendants. Moi je suis pour que le Shah d'Iran reprenne le pouvoir en Iran. J'ai envie que la Perse millénaire redevienne la Perse millénaire. Tous les Perses que j'ai rencontrés qui n'étaient pas des fils de la révolution à la con, ce sont des gens brillants, ce sont des gens avec qui tu peux faire société, ce sont des francophiles, hein, ce sont des gens qui régalent. D'accord ? Les Perses, les Iraniens, la communauté iranienne en France, à part 2-3 cassos, si vous voulez, évidemment, vous trouverez toujours 2-3 cassos. Ce sont des gens d'une très grande culture qui aiment la civilisation, qui ont un amour structurel pour la civilisation. D'accord ? Faut pas confondre les Iraniens avec les Bédouins. D'accord ? Ce sont pas des gens... si vous voulez, les Arabes, les vrais Arabes, hein, les Arabes se sont vautrés dans ce qu'on appelle la razzia. D'accord ? Les Iraniens ne pratiquent pas la razzia. Les endroits qui ont été conquis par les Perses sont devenus des civilisations qui étaient comme les civilisations qui étaient conquis par les Romains. C'est-à-dire, on était romanisés, on avait des influences perses, on ne disparaissait pas, c'était pas la grande dévastation. D'accord ? Les Perses ne sont pas des homo bédouiniques, d'accord ? C'est pas homo bédouinus, le Perse. Ça, faut le comprendre. C'est une culture qui a 6000 ans, la Perse. Donc, il faut l'envisager différemment que des cultures qui n'ont découvert l'alphabet qu'au 5e siècle, comme pour les Arabes, hein, parce que les gens croient que l'Arabe existait en Antiquité. L'Arabe, les amis, c'est au 5e siècle. Et ça me fait rire les Maghrébins qui complexent par rapport à l'arabité, parce qu'au Maghreb, avant qu'il y ait l'arabisation qui détruise tout, et l'ottomanisation qui rajoute de la mongolitude par-dessus, les civilisations berbères étaient des civilisations brillantes qui mettent 25 fois à l'amende la culture arabe. Hein. La culture arabe est extrêmement tardive. Hein. Les berbères avaient un alphabet 2000 ans avant les Arabes. Hein. Ça, faut le comprendre. Voilà. Ensuite, hein, le Maghreb a été arabisé, et là, ben, vous obtenez Médine, Mohamed Al-Atrassi, vous obtenez Tebboune, vous obtenez Salah Abdeslam, vous obtenez tout ça. Voilà, vous obtenez tout ça. Mais avant ça, il y avait une très très grande civilisation berbère. Bon, bref. Tout ça pour vous dire que quand on vous vend du conflit contre les musulmans qui va faire du bien en expliquant qu'on va bombarder l'Iran, ça ne changera rien pour Omour Akayus qui vit dans les quartiers nord de Marseille, à Lyon, à Paris, à Annemasse, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, le nombre de bombes qui vont tomber sur Téhéran n'infléchiront pas le taux de coups de couteau enregistré à Grenoble pour l'année 2025. Vous le comprenez, sa bande de fils de pute, hein ? Est-ce que vous le comprenez ? Parce qu'en fait, le droit tardé qui me dit « Ouais, super, on va foutre les musulmans sur la gueule », d'accord. Est-ce qu'on ne devrait pas démarrer par les Champs-Élysées, en fait ? Est-ce qu'on ne devrait pas démarrer par la racaille musulmane ? Oui, alors avant que les Arabes me harcèlent en DM, les Arabes des Champs-Élysées, c'est pas des pratiquants, d'accord. Ils s'appellent Mohamed, ils mangent du couscous, ils sont circoncis, leurs parents les ont amenés au moins une fois à la mosquée, et leurs parents sont issus de pays et de cultures à majorité sunnite. Donc arrêtez de me dire « un tel est musulman, un tel n'est pas musulman », parce qu'à la fin, plus personne n'est musulman. Les terroristes, c'est pas des musulmans parce que c'est des terroristes. Les racailles, c'est pas des musulmans parce que c'est des racailles. Les arabes intégrés, c'est pas des vrais musulmans parce qu'ils sont intégrés. Bon, il reste qui d'arabes, en fait ? C'est-à-dire le prophète et ses compagnons, en fait, voilà, de musulmans. Voilà. Il y a qu'eux qui sont musulmans. Et quatre salafis qui sont partis faire leur hijra et qui se sont isolés et qui, eux, vivent vraiment comme des musulmans. Voilà. Mais bon, il se trouve que les mecs disent « Wesh » et « Wallah » et « Brasamaha Karbi » à chaque phrase. Donc, excusez-nous de les considérer comme des musulmans, ou en tout cas comme des supplétifs musulmans, comme des gens rattachables à l'islam. À un moment, il va falloir que vous réveillez. Un mec qui s'appelle Bachir, qui crache par terre, qui dit « Wallah », qui ne mange pas de cochon, si vous voulez, désolé d'avoir l'outrecuidance de considérer qu'il est rattachable à un pôle d'adhésion culturelle musulman. Voilà. Je suis désolé, mais bon, écoutez, il y a quand même beaucoup de signaux. Enfin, quand il se met de profil, c'est pas un pif de Gaulois que je vois, hein, je suis désolé. Hein, parce que ça me fait rire aussi, les Arabes qui se moquent des Juifs. Oh, regardez les nez qu'ils ont, oui, bon, enfin, si tu veux qu'on commence à parler de têtes bizarroïdes, si tu veux, on va aller trouver Bouddhair et je sais pas qui, et voilà, vous avez quand même des têtes particulières, hein, vous avez pas exactement des regards qui nous poussent à avoir envie d'aller boire des coups en terrasse et à se sentir complètement tranquille à partir d'11 heures quand on est une femme et qu'on a une mini-jupe. Hein, ça, je quand même obligé de vous le dire, c'est une réalité qu'il faut que vous entendiez. Voilà, je sais que c'est pas agréable, mais enfin, il faut que vous compreniez que même les gauchistes qui sont avec vous choisissent les quartiers et les collèges où ils foutent leurs gosses, hein, par rapport à votre présence. Hein. Voilà, c'est-à-dire que si vous êtes présent quelque part, ben, ils choisissent d'aller habiter où vous n'êtes pas présent. Ça, que vous le compreniez. Hein. Je vous le dis parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vous l'expliquent, hein, même à droite. Hein, mais si vous voulez, les décisions des gens normaux que sont les Français blancs, si vous voulez, elles se font beaucoup par rapport à votre présence ou à votre non-présence. Hein. Vous voyez, les horaires auxquels ils vont aller au cinéma, les quartiers dans lesquels ils vont aller, les collèges dans lesquels ils vont mettre leurs enfants, y compris les gauchos, hein, parce que les gauchos n'arrêtent pas de vous dire qu'ils vous adorent et qu'ils vous aiment. Ce sont les plus grands contourneurs de la carte scolaire, hein, si vous voulez. Voilà. Et la carte scolaire, on la contourne pas par rapport au nombre de Polonais, d'Espagnols, d'Italiens, d'Arméniens, de Grecs ou de Portugais qu'il y a dans un collège. Hein. Voilà. Les bobos de gauche préfèrent que leurs gosses aillent dans un collège lusitanos de Créteil où 80% des gosses sont d'ascendance portugaise que les foutre au collège Stendhal à Bagatelle à Toulouse. Hein. Voilà. Parce que ça va revenir à la maison en disant que ça veut plus manger de cochon. J'ai eu le cas récemment. Les filles d'un ami à moi, je vais pas dire son nom parce que je veux pas lui foutre la honte, mais il m'a expliqué quand même que ses filles sont rentrées du collège et qu'elles ont commencé à lui dire qu'elle qu'elles sont musulmanes. Donc quand il m'a dit ça, j'ai explosé de rire. Alors ils ont été très bons, ils ont été très très bons, hein, parce que donc ce couple que je salue, je leur passe bonjour, je sais qu'ils écoutent le podcast, ils sont allés au restaurant chinois parce que leur petite fille adore le restaurant chinois. Ils sont allés au restaurant chinois, donc les gamines ont commencé, je crois, à mettre, enfin j'étais pas là, mais ça m'a été rapporté comme ça, elles ont commencé à choisir des trucs, des crevettes tempura, etc. Ah non, ça tu peux pas, c'est pas halal. En fait, les gamines, au bout de 3 secondes, elles avaient envie de bouffer des nems au porc. Elles ont dit non, mais c'est bon, ça y est, je suis plus musulman, c'est bon. Donc là, les parents ont été très, 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 très bons. Donc voilà, si vous voulez, pour éviter ce genre de déconvenue, il y a beaucoup de familles qui se barrent. Voilà, donc si vous voulez, ça, il faut que vous le sachiez, les Maghrébins. Il y a plein de gens qui vous disent qu'ils vous aiment bien. Et je pense que par certains aspects, c'est sincère. Il y a des parties de vous qu'ils aiment bien. Après, leurs gosses, t'inquiète pas qu'ils les mettent pas à l'école où il y a les vôtres. Voilà, ça, il faut que vous le sachiez, c'est dit. Donc voilà, donc vous êtes, comme vous êtes déchristianisé, en fait, vous n'avez plus de pôle d'adhésion fort. Si la France était un royaume chrétien avec un roi puissant en la personne de Louis XX Bourbon, Louis XX Bourbon dirait « Nous ne pouvons point prendre pour alliés des gens qui estiment que le Christ est un imposteur. » Ça, c'est pour les Juifs. Je suis désolé. Je sais que vous n'aimez pas quand je dis ça, les Juifs, vous trouvez ça réducteur, mais c'est la vérité. Votre religion estime que le Christ est un imposteur et qu'il s'est fait passer pour le Fils de Dieu et qu'il n'est pas le Fils de Dieu. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour la Torah, qui est le tronc principal des religions abrahamiques. En revanche, en tant que catholique, je me dois de rejeter le Talmud, qui est profondément une insulte au Fils de Dieu, l'homme mi-Dieu que j'ai décidé de suivre et à qui j'ai décidé de vouer ma vie. Voilà. Donc, ne le prenez pas mal, les Juifs, mais c'est une réalité que vous devez entendre. C'est que notre sympathie commune et les petits chemins qu'on a pu faire ensemble s'arrêtent au moment où vous considérez que notre Seigneur Jésus-Christ est un imposteur. En ça, chers amis juifs, je ne peux pas vous prendre pour alliés, je peux vous respecter, je peux, et je le dis d'ailleurs dans ce podcast, vous encourager à avoir un pays et vous soutenir dans cette démarche d'avoir un pays. Vous ne serez jamais dépendant de la volonté d'un gouverneur et vous pourrez être tranquillement en train de pratiquer votre religion, puisque je vous le rappelle, nous, les chrétiens, n'avons pas le devoir d'exterminer les juifs, nous avons le devoir de prier pour leur conversion. C'est-à-dire que moi, régulièrement, je prie pour que les Juifs se rendent compte que Jésus n'est pas un imposteur, mais il est le Fils de Dieu. Voilà. Ce qui ne m'empêche pas de vous souhaiter d'avoir un pays pour vous défendre, parce que moi, je ne veux pas que mon peuple se retrouve sans pays pour le défendre. Donc, ce que je veux pour moi et ce que je veux pour les miens, je dois le vouloir pour les autres. C'est la raison pour laquelle je soutiens les grands chefs musulmans dans les pays musulmans. Je soutiens le roi du Maroc au Maroc. D'ailleurs, le roi du Maroc permet au catholicisme d'avoir un diocèse au Maroc, ce qui n'est pas le cas en Algérie, je le rappelle. Donc voilà, il faut quand même prendre les choses avec des pincettes. Et vous avez des communautés religieuses chrétiennes qui certes peuvent être harcelées par des juifs orthodoxes, des juifs extrêmement extrémistes en Israël, mais qui toutefois n'ont pas été privés de leur accès au tombeau du Christ. Donc on peut quand même reconnaître ça à l'État hébreu quand on fait la part des choses. Donc si vous voulez, il y a quand même des choses, il y a quand même des passerelles, il y a quand même des moments où on peut se serrer la main, où on peut avoir une entente, mais cela s'arrête quand il s'agit d'affirmer les choses les plus importantes et les plus structurantes et les plus cruciales et les plus sacrées quand il s'agit d'affirmer la divinité du Christ. Et ça, en ça, je m'oppose au judaïsme et je m'oppose aussi à l'islam. C'est la limite que j'ai avec les musulmans. Oui, Jésus, il est mentionné plein de fois dans le Coran. Oui, vous respectez si, il y a un verset du Coran qui est dédié à la Vierge. Jésus est le Fils de Dieu. Et nous, les chrétiens, je suis désolé de vous le dire, les musulmans, mais nous, les chrétiens, ne reconnaissons pas votre prophète. Nous pensons que votre prophète, je vais vous dire comment on voit les choses, nous, les chrétiens, je suis désolé, je ne veux pas vous vexer, mais je suis obligé de vous parler avec les tripes et avec le cœur, et je vous dois la vérité. Pour nous, les chrétiens, le prophète Mohammed a été trompé par Satan qui s'est fait passer pour l'ange Gabriel. Voilà, donc c'est comme ça que nous voyons votre religion. Nous pensons que vous êtes égarés. Et vous, d'ailleurs, vous nous voyez réciproquement comme étant des associateurs, comme étant des dans le shirk, comme étant des gens qui ont trois dieux plutôt que d'en avoir un. Alors, je ne vais pas me lancer dans une explication de ce qu'est la Trinité parce que je l'ai fait pendant tout le lycée, dans un lycée où il y avait 75% d'Arabes. Et je suis un petit peu fatigué de le faire. Un jour, je le ferai. Hein. Je le ferai dans un podcast spécifiquement dédié à la Trinité. Mais si vous voulez, on ne va pas discuter de religion, je vais laisser ça aux imams, aux rabbins et aux abbés, d'accord, et aux théologiens en général, de s'affronter sur des questions religieuses. Moi, je vous parle de civilisation et je vous dis que civilisationnellement, le français est dédié au Christ. La France est la fille aînée de l'Église. Donc, vous, en tant que musulman, vous, c'est comme les juifs, vous n'avez qu'une place limitée là-dedans si on est sincère. Voilà. Si on est sincère. Donc, en tant que chrétien, je ne peux pas prendre pour allié des gens qui renient le Christ, qui pensent que c'est un imposteur, ou prendre pour allié des gens qui estiment que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Parce que ça offense ma religion, ça offense les Saintes Écritures, ça offense le Christ, ça offense l'Église, ça offense la France. Ça offense la France. Voilà. Voilà en quoi on ne peut pas faire nos chemins ensemble. On peut serrer la main, on peut avoir des souvenirs et des anecdotes communes d'amour pour la France. Récemment, je discutais avec un juif français qui s'appelle Mounir Mouns, qui est évidemment un type éminemment amoureux de la France, éminemment sympathique. Pas Mounir Mouns, qu'est-ce que je raconte ? Pas Mounir Mouns, Simon, je crois. Simon Mouns, il me semble. Avec qui j'aimerais bien faire un petit débat pour revenir sur ces questions. C'est un type qui aime la France, sincèrement. Mais si les intérêts d'Israël passent au-dessus de la France, et c'est le cas en ce moment, je pense qu'il s'alignera sur l'État qui consacre son adhésion religieuse. Il est non seulement génétiquement juif, mais il est religieusement juif. Donc il est normal qu'Israël ait un poids plus fort que la France. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas vivre en France, il faut vivre en Israël, voilà. Ou alors, en tout cas, ne pas avoir la nationalité française. Bon, ça c'est mon avis, c'est-à-dire qu'en fait, si vos intérêts sont autres que les intérêts de la France, vous ne devriez pas avoir une égalité de vote d'avec les gens dont la France est l'intérêt principal. Voilà, ça me semble être... vous imaginez, moi, en tant que chrétien, je vais aller en Israël. Si je peux voter en Israël, qu'est-ce que je vais voter ? Je vais voter des trucs qui sont au service des Juifs, qui considèrent que Jésus est un imposteur, ou je vais voter et être activiste pour les intérêts des chrétiens en Israël ? Ben évidemment, je vais être un activiste pour les chrétiens d'Israël, donc je m'abstiens de le faire par dignité. J'ai pas envie d'aller chez les juifs promouvoir les intérêts des chrétiens. Donc je vous demande une réciprocité à vous, les juifs et les musulmans. Je vous demande, quand vous êtes en terre chrétienne, de tout simplement partir pour ne pas interférer sur les intérêts que nous avons, nous les chrétiens, en France. Et notre intérêt, je suis désolé les amis maghrébins et les amis juifs, nos intérêts en tant que français, c'est de ne plus avoir des BHL, de ne plus avoir des Bernard-Henri Lévy, de ne plus avoir le baron noir là, Julien Drey, de plus avoir des mecs comme ça, et de l'autre côté, de plus avoir des racailles, de plus avoir des imams, de plus avoir 25 mosquées par ville, c'est notre intérêt en tant que Français, que vous le vouliez ou non. Voilà. Et ça, si vous êtes un juif ou un musulman de bonne volonté et sincère, vous le saurez. Voilà. Et aujourd'hui, ce discours, il est d'autant plus difficile à tenir que déjà la France est déchristianisée. Donc je suis très seul quand je tiens ce discours de tenir notre centre, de tenir notre cap à nous civilisationnel. Donc je suis très très seul. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux droites. Déjà, il y a la gauche qui, à la fois, peut être pro-israélienne parce qu'elle est républicaine et laïcarde, et pro-israélienne et pro-gazaoui parce qu'elle est antisémite et communiste. Voilà. Donc ça, il y a deux gauches qui s'affrontent. Il y a deux droites aussi qui s'affrontent. Vous avez la droite d'inspiration marxiste financée par l'Iran qu'incarne, en fait, Alain Soral. Donc lui, il est dans une croisade contre le judaïsme pour des raisons de déchéance personnelle. C'est-à-dire qu'à un moment, il était à deux doigts de rentrer dans le milieu et d'être adoubé par les milieux du cinéma dans lesquels il y a énormément de juifs. Ce ticket lui a été refusé, donc c'est un mondain déchu. qui a décidé donc de se venger via l'adhésion donc au combat contre les Juifs, via l'adhésion à la Palestine, qui lui permet de coaliser les Maghrébins dans sa quête de vengeance et de haine contre les Juifs qui lui ont confisqué sa carrière de cinéaste. Je crois que c'est ça, hein, le moteur de départ, c'est les Juifs m'ont empêché d'être juif, donc je vais me venger d'eux pour toujours, et pour ce faire, je vais séduire les Maghrébins et tenter d'expliquer qu'il y aurait un front de la foi. Quand on est authentiquement catholique, et d'ailleurs quand on est authentiquement musulman, il ne peut pas y avoir de front de la foi. Cette proposition du front de la foi, elle est stratégiquement intéressante dans une visée antisémite, elle n'est théologiquement absolument impossible. Voilà. Si on est un catholique sincère et convaincu, on ne peut prendre pour allié ni un juif ni un musulman. Donc il n'y aura pas de front commun. C'est impossible. Moi, je communie avec Christ. Je communie pas avec Mohamed. Je communie pas avec les rabbins qui ont ratifié, qui ont écrit le Talmud. C'est impossible en tant que chrétien. Ça rentrerait en contradiction avec ma foi chrétienne. Donc vous avez cette droite soralienne qui vous pousse à prendre pour principale cause la cause des musulmans, coûte que coûte. Et vous avez l'autre droite, donc la droite CNews, qui est une droite très proche d'Israël, parce qu'il y a beaucoup d'intervenants sur CNews qui sont des juifs de droite. Donc parmi eux, il y a Gonaldel, mais il y en a d'autres, et qui, eux, ont pour intérêt de défendre Israël et qui essaient de ramener les droitards français à une adhésion, à une espèce d'alliance occidentale des démocraties contre les Arabes. Alors moi, déjà, je ne suis pas pour la démocratie, parce que souvent, ce que vous proposent ces juifs de droite, c'est de défendre la République, les valeurs de la République, qui sont d'ailleurs très corrélées aux valeurs du Talmud, et les valeurs de la laïcité. Bon, moi, en tant que royaliste chrétien, amoureux de la France, je ne suis ni républicain, ni laïcard, ni pro-démocratie. Voilà. Je suis pour le roi, et je suis pour un royaume de droit divin. Je suis pour que Louis XX de Bourbon retourne sur le trône et se remette à administrer la France sous une nouvelle constitution dont le catholisme figure comme religion d'État. Ce qui nous permettrait de faire à nos minorités ce que font Israël et l'Arabie Saoudite à leurs minorités, respectivement juives et chrétiennes. Voilà. Et musulmanes dans le cas d'Israël. Voilà. Donc, si vous voulez, moi, j'essaie de tenir cette ligne, de dire à la fois aux musulmans et aux juifs, nous aussi, les chrétiens, nous avons le droit de militer pour nos intérêts. Et nos intérêts ne sont ni à Gaza, ni en Israël. Nos intérêts sont à libérer notre pays, d'une part de la volonté maçonnique de le détruire, et d'autre part de la volonté musulmane de le conquérir par la démographie, par la politique ou par la guerre, le jour où le nombre sera suffisant. Voilà. Donc, si vous voulez, je vous enjoins. On est très très peu. Hein, on est très très peu. La pression des Soraliens sera énorme. La pression des Juifs sera énorme. La pression des droitardés CNews sera énorme pour que vous choisissiez un de ces deux camps. Parce qu'en fait, aucun de ces camps-là n'est chrétien. Aucun de ces camps-là n'a réellement le Christ à cœur, que ce soit la droite athée, CNews, Frontières, ce que vous voulez, ou que ce soit la droite marxiste, islamisée, soralienne. Aucun de ces gens-là n'est pour l'unique et seul camp de Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà. Et je regrette, hein, je suis quand même obligé de le dire, mais le moment où la France, elle est le plus en place, c'est le moment où Saint-Louis la gouverne. Saint-Louis, c'est un type qui va faire les croisades. Saint-Louis, c'est quelqu'un qui a expulsé les juifs talmudiques de Paris. Il a gardé les juifs qui promettaient de ne s'en référer qu'à la Torah, mais a exclu les juifs du Talmud. Voilà. Et vous, en tant que chrétien, vous ne devez avoir que de la fraternité pour les juifs de la Torah et prier pour leur conversion. En revanche, vous devez rejeter toute forme d'adhésion au talmudisme qui est une offense à notre Seigneur Jésus-Christ, tout comme l'islam est une offense à notre Seigneur Jésus-Christ. Là-dessus, on ne peut pas tergiverser. Voilà. Et moi, les amis salafistes que j'ai ou les amis juifs que j'ai, quand on a des discussions religieuses approfondies, ils m'expliquent que la limite, elle est là, même pour eux. Pour mon pote Achid Lastrit, dont je parle régulièrement, qui est vraiment un très très bon gars que j'apprécie beaucoup, qui a fait sa hijra, qui est parti au Koweït, ben, même lui, il y a un moment où, voilà, il croit en les préceptes de Mohamed et pour lui, je suis un associateur. Et pour moi, il est quelqu'un qui a suivi un faux prophète. Ça n'empêche pas qu'on est potes et tout, mais régulièrement, quand on discute, on se dit, voilà, ben, un jour, nos blocs vont peut-être s'affronter et malheureusement, on sera l'un en face de l'autre. Voilà. Alors, si je le trouve sur le champ de bataille, évidemment que je ne vais pas lui tirer dessus. Il y aura un sourire, une tape sur l'épaule et je lui dirai, écoute, je préfère que ce soit un autre chrétien qui te tue. Et si c'est lui qui a le fusil et que moi je suis désarmé, il me dira, écoute, je préfère que ce soit un autre musulman qui te tue, en souvenir des discussions qu'on a eues. Mais voilà, notre fidélité ira au camp de l'islam pour lui et au camp du Christ pour moi. Voilà, ce sera une relation à la Baudouin et Saladin. On se respecte, mais on n'appartient pas au même pôle civilisationnel. Et c'est pareil pour les juifs. C'est pareil pour les juifs. Je suis désolé de vous le dire, j'ai des copains juifs. On discute régulièrement de religion. Et en fait, ça s'arrête quand ils me disent que non, on s'est trompé, que Jésus n'est pas le fils de Dieu. Ça s'arrête là. Voilà, donc si un jour, il y a une guerre entre Israël et la France et que je trouve ce juif-là et qu'il me demande s'il peut se planquer dans ma cave, je le ferai par esprit chrétien. Je le ferai par esprit chrétien. En revanche, je tirerai sur les autres que je ne connais pas s'ils venaient à tenter de m'imposer l'abandon du Christ. Alors, ils ne le font pas comme les Arabes de manière frontale, ils le font de manière plus métapolitique. Voilà, vous savez, ça c'est quelque chose qu'il faut que vous entendiez, les Juifs. Hein. Vous savez que une grande partie de l'antisémitisme qui gagne du terrain en France se fait parce qu'il y a un certain nombre d'observations qui sont faites qui conduisent les gens à avoir cet antisémitisme. Je vais vous en citer trois, mais la plupart des films qui font ou des publicités qui font la promotion du métissage, c'est systématiquement des réalisateurs d'origine juive. Vous avez l'industrie du porno qui a détruit la famille et la sexualité des Occidentaux, dont les manias sont très souvent des Juifs. Vous avez le rap qui est très souvent qui sont très souvent des maisons de disques dirigées par des Juifs. Vous avez Bertrand Cantat dont les managers le protègent. Là, j'ai vu le comment ça s'appelle, le reportage là sur Bertrand Cantat. Bon, mais son producteur cachère continue à le protéger alors que le mec est une énorme ordure. Donc, si vous voulez, ce sont des éléments BHL, Jacques Attali, je sais pas quel rabbin qui nous explique que l'islam est le balai d'Israël et qu'il est là pour punir les Européens, ne facilite pas la fin de l'antisémitisme en France. Voilà. Et puis vous avez le double discours. Il y a beaucoup de juifs de droite, par exemple en France, qui estiment que la Russie a commis une erreur en attaquant l'Ukraine. Elle a commis une guerre d'agression parce que elle a franchi comment on appelle ça ? Elle a détruit elle a franchi une frontière d'un pays souverain pour venir y installer la guerre. Bon, ben c'est exactement ce qu'a fait Israël avec l'Iran. Bon, et les Russes le font pour se protéger, mais eux, ils n'ont pas le droit. Les Juifs le font pour se protéger, mais eux, ils ont le droit. Donc, c'est ce double discours, ce double standard qui est très fatigant. Vous savez que beaucoup de Juifs intellectuels des années 80, artistes ou intellectuels, ont beaucoup milité contre Jean-Marie Le Pen, qui avait quand même professé un certain nombre de mots qui allait affecter la France. Bon, c'était peut-être un mec, s'il avait été appuyé et moins critiqué, qui aurait pu nous sauver de la situation désastreuse dans laquelle on est actuellement et peut-être, in fine, sauver la France. Ce mec-là a été attaqué par des armées et des armées de Juifs, si vous voulez. Donc, quand il y a eu le 7 octobre, le clairon de la ratonnade a retenti et tout d'un coup, les goyes ont eu la permission d'aller faire la ratonnade, ou en tout cas de laisser Israël faire la ratonnade et de ne pas s'en indigner. J'aurais aimé que ce coup de clairon soit... Non, évidemment que j'ai pas envie qu'on fasse une ratonnade gratuite, surtout dans les années 80, la plupart des Maghrébins étaient des gens intégrés. Mais j'aurais aimé qu'on puisse ratonner les racailles, voilà, les racailles, si vous voulez. J'aurais aimé que les Juifs nous donnent l'autorisation de nous occuper des racailles dans les années 80. Là, c'est un petit peu tardif. On est en 2025, il y a 25 millions de musulmans qui sont arrivés en France parce que BHL nous a proposé d'aller détruire la Libye et le régime de Bachar. Bon, eh ben, on voit le résultat. Donc, si vous voulez, c'est un peu fort de café que, parce qu'Israël a été touché par les attaques du Hamas, ça y est, le goy ait le droit de vouloir que les babouches se barrent. C'est un petit peu fort de café, si vous voulez. J'aurais aimé qu'on ait la permission morale de le faire avant que les Juifs nous la donnent, si vous voulez. Voilà. Donc, il faut quand même voir tous ces éléments. Il faut les prendre en compte. Il faut que vous compreniez qu'aujourd'hui, il n'y a pas de patriotisme juif ou de patriotisme musulman qui soit plus salvateur et plus pro-français que le patriotisme chrétien, qui peut être le seul qui ne va pas aller dans des considérations qui sont contre les intérêts de la France. Les musulmans veuillent que les pays musulmans se renforcent. Ce n'est pas notre intérêt parce que ce sont des pays qui nous sont hostiles, certains d'entre eux. Et ensuite, les juifs détruisent des pays, les Israéliens détruisent des pays qui abritaient des dictateurs qui nous empêchaient d'avoir des millions de clandos. Voilà. Que ce soit Saddam Hussein, que ce soit Kadhafi, que ce soit Bachar al-Assad, c'était des gens qui empêchaient les hordes de rats de prendre le bateau et de débarquer en Europe. Et d'ailleurs, actuellement, le Maroc, même si de temps en temps, ils nous font des lâchers de Maliens à la frontière espagnole, s'occupe quand même, parce que le Maroc, si vous voulez, bon, le Maroc... Ah, ça reste des Marocains, si vous voulez. Donc, il y a un côté noble parce que c'est un pays millénaire, mais il y a quand même le côté arabisé, si tu veux. Donc, de temps en temps, ils nous font des trucs d'enculés, ils nous font un lâcher de noir à Gibraltar en nous disant « Ah, regardez, ils ont sauté le grillage. » Bon. Et de temps en temps, comme ça reste quand même des Arabes et des Berbères, il y a ce racisme intrinsèque qui font qu'ils prennent des hélicoptères, ils mettent 25 Maliens dedans et ils les relâchent dans le désert du Polisario pour qu'ils se fassent attraper par les Touaregs qui vont faire des esclaves, si vous voulez. Donc voilà, il y a des royaumes comme ça qui ont un peu un jeu double avec nous. Bon, mais c'est le jeu diplomatique. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, le seul patriotisme qui ne rentre pas en contradiction avec les intérêts de la France, c'est le patriotisme teinté de catholicisme, voilà, et de chrétienté en général, voilà. Bien qu'un orthodoxe, c'est pareil. Si un jour il y a un conflit entre un pays orthodoxe et un pays catholique, eh ben ça va être compliqué pour lui. Voilà. Donc, je pense que le catholicisme est en réalité là. Mais bon, il n'y a pas suffisamment d'orthodoxes pour que si jamais il y avait un conflit entre la France et l'orthodoxie, ils se mettent à trahir la France, ouais, et à être un ennemi de l'intérieur. Voilà. Donc, faut pas décoller non plus. Donc voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Et la pression va être extrêmement forte. La pression va être extrêmement. Les Soraliens n'arrêtent pas. Ils ont toujours une bonne raison de vous dire non mais attendez les musulmans sont nos copains. Bon, mais je suis désolé, moi j'allume la télé, je regarde les Champs-Élysées, les musulmans sont pas mes copains. Et de l'autre côté, les juifs ont beau vous dire qu'on est le même pôle civilisationnel, le problème c'est que avant le porno, avant Hollywood, ça allait quand même beaucoup mieux en Europe, avant le communisme qui a été inventé par un juif à Trèves, ça allait beaucoup mieux. Avant la psychanalyse, ça allait beaucoup mieux. Tout ça, c'est des productions juives, quand même. Si vous voulez, les grandes idéologies qui ont secoué l'Europe et qui l'ont menée quand même à des affrontements majeurs sont des idéologies qui ont été pensées par des juifs. Voilà, les grandes famines en Ukraine, le Holodomor, ont été orchestrées majoritairement par des bolcheviks d'origine juive. Trotsky est juif. Bon, ça fait quand même beaucoup d'intellectuels juifs qui amènent des bouleversements qui ont mené la société traditionnelle européenne à sa perte. Donc je ne peux trouver un allié dans aucun des deux. Il faut que vous soyez capable de l'entendre. Ce qui ne fait pas de moi un islamophobe ou un antisémite, puisque je suis pour que dans vos pays respectifs, vous soyez maître chez vous, que vous ayez un chez vous, et que vous puissiez faire respecter vos cultures chez vous. Voilà. Mais je demande la même chose chez moi, et ça, ni les musulmans, ni les juifs ne me l'octroient. Voilà. J'ai le droit d'être pro-palestinien, je ne peux pas être pro-français. Voilà. Je peux être pro Rima Hassan, je ne peux pas être pro Le Pen. C'est étonnant, ça. C'est, les Arabes m'autorisent à aider Rima Hassan. Voilà. Et j'ai un peu l'impression que Rima Hassan et Meir Habib, ils sont en train de danser un slow sur la tombe de l'Occident post-chrétien, si vous voulez. Attends, je vais vous mettre la musique sur laquelle ils dansent. Donc, ils sont là, comme ça, c'est la soirée. Ça s'appelle « The Semites on the Christian Grave ». C'est le thème de la soirée. « The Semites coalesced behind, ou je sais pas quoi, under the Christian grave ». Et c'est un peu disco. Tu sais, c'est une soirée un peu disco, donc ils sont là, c'est la fête, ils dansent entre eux, alors ils se chamaillent un petit peu. Ils se chamaillent sur cette chanson. Oh, oh, oh! Et là, t'as Mélenchon qui danse avec Soral, t'as Meyer Habib qui danse avec Rima Hassan. Tout le monde est là, c'est la fête, on prend de la coke, on mange cachère, on bouffe halal. Le front de la foi, les judéo-chrétiens, voilà, le clafoutis de civilisation. Con. Et tout ça sur la tombe. La tombe de qui? La tombe de Saint-Louis. Regardez, écoutez comme ils s'amusent tous. Oh putain, c'est énorme. Imaginez la fête. Il y a des turbans, des kippas, des tapis de prière, des imams, des rabbins. Il y a le Rav Houssan. Il y a l'imam Chalgoumi, c'est la fiesta. Et alors, on dirait un truc. Ça se fait sur quoi? Ça se fait sur la tombe de Saint-Louis. Écoutez comme il s'amuse. Et toi t'es soralien, oh, wah, wah, wah. Ou t'es plutôt CNews, wah, wah, wah. Wow, cachère halal, wow, on est d'accord pour pas de cochon, wow. Voilà. Donc, si vous voulez, si le bal masqué ohé ohé pouvait s'arrêter, ça serait bien. Ça serait bien, voilà. Donc, c'est bien, vous luttez pour vos intérêts respectifs. Est-ce que on peut anéantir les racailles des Champs-Élysées? Non, parce que c'est toujours pareil. Il faut bombarder l'Iran, mais le gang Traoré, c'est des Maliens sunnites. Tebboune, qui veut pas récupérer, qui ressemble à un Algérien de PMU de Garges-lès-Gonesse, il veut pas récupérer ses OQTF, c'est un sunnite. Salah Abdeslam, sunnite. Rokhaya Diallo, Sénégal, mouridisme sunnite. Bref, je vous fais pas toute la liste. Dabia B qui a désarticulé Lola, sunnite. Voilà. Vous voyez un peu le truc? Vous voyez un peu le truc? Donc, si vous voulez, je ne comprends pas la relation qu'il y a entre aller éclater l'Iran et se débarrasser de nos racailles. Et Macron, moi, je lui donne un conseil, puisqu'il veut absolument faire une guerre. Il cherche un endroit pour aller faire mourir nos militaires. Ça, il cherche un conflit en Ukraine, en Russie, mais vraiment un truc de dévastation finie, une troisième guerre mondiale, pour absolument aller faire crever nos soldats français. Mais gros, putain, tu n'arrives pas à te faire respecter par le président Tebboune, qui refuse de récupérer les poubelles qu'a déversé l'Algérie dans la France, et tu veux aller mettre je sais pas quelle puissance nucléaire au pas? Mais réveille-toi, mon pote, quand. Le boulot, il est à la maison, là. Le grand ménage, il est à la maison, là. Le pays est à feu à sang. On ne tient même pas à Marseille. On veut aller faire la guerre contre les Mollahs. Attends. T'as Alex Hitchens qui te raccroche à la gueule dans les auditions parlementaires, et tu vas aller faire le fifou avec des puissances nucléaires, si tu veux. Est-ce qu'on pourrait s'occuper de la France? Excusez-moi, là, les Juifs, les Arabes, les Boomers, les Macronismes, est-ce que ça vous intéresse, la France? Non, parce que je sais pas, vous y vivez tous, mais il y en a pas un que ça intéresse. Est-ce que ça pourrait redevenir la France? Est-ce que je pourrais retourner au cinéma le samedi soir sans qu'il y ait des Arabes qui allument leur téléphone pendant la séance, qui se lèvent 10 fois pour aller aux chiottes, qui fassent des commentaires pendant le film? Est-ce que je pourrais re-avoir un pays où on peut avoir des films sur la chevalerie parce qu'en fait, c'est pas une industrie remplie de séfarades communistes, de Ashkenaz communistes qui ont pas envie qu'on fasse des films sur les croisades? Est-ce que je pourrais retrouver un pays normal, en fait, s'il vous plaît? Est-ce que c'est possible? Voilà, merci. Merci beaucoup, les amis. Donc voilà, écoutez, c'était l'exposé de la troisième voie, la seule, qui est la première en réalité, celle du Christ. Ne tombez pas, ayez de la force de caractère. C'est difficile d'être tout seul. Vous savez, Jésus, quand il était sur la croix, il y avait les Romains contre lui, l'Empire qui gouvernait le monde à l'époque. Il y avait les pharisiens, il y avait les spectateurs, voilà, indécis. Il y avait Satan qui rigolait de tout ça. Il était très seul sur la croix. Il était très seul. Et pourtant, c'était lui la vérité, c'était lui la voix. Soyez comme le Christ, soyez comme lui. On est sur la croix, on est entouré de gens qui sont soit spectateurs, soit acteurs de notre souffrance et de notre martyr. Mais on est dans la vérité. On est dans la vérité. Je sais que c'est difficile de tenir le cap au milieu des soraliens et des CNewsistes. Mais voilà, refusez toute forme de droite tardise. Ni babouche, ni kippa. La France éternelle, toujours avec Christus Rex.